Bonjour à chacun et à chacune. Merci à Paul pour cette première partie de notre célébration de ce matin. Merci également d'avoir prié pour nous et pour le message. À propos de ce message, justement, nous l'avons tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4. Nous lirons les 6 premiers versets. Je vous propose qu'après la lecture, que vous gardiez vos textes devant vous de manière qu'on puisse tous évoluer ensemble dans l'analyse et le partage de ce matin. Je disais, ce message, nous l'avons tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je vais lire la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons reçu ce ministère, nous ne nous décourageons pas. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les accusations honteuses qui se font en secret. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, nous nous recommandons en toute conscience d'homme et devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, Dieu qui a ordonné que la lumière brille dans, du sein de ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire splendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, la seule raison de notre ministère. Jésus-Christ, le fondement de notre foi, de notre appel, de notre sacerdoce. Tel est le sujet, bien-aimé dans le Seigneur, que je vais partager avec vous ce matin. Ainsi, 3 choses nous intéressent dans ce texte. 3 sections nous intéressent dans ce texte. La première chose va du premier verset au verset 2, les 2 premiers versets. Le ministère, c'est un don de Dieu. Ton appel, c'est un don de Dieu. Ta vocation, c'est un don de Dieu. Deuxième chose de ce matin. Même si nous savons que nous avons reçu ce ministère, cette foi de la part de Dieu, n'oublions jamais que le Dieu de ce monde est à l'œuvre. C'est la deuxième chose, de ce matin. On l'appelle le prince de la terre. Il est à l'œuvre jour et nuit et partout où nous nous trouvons. Il travaille sans relâche. troisième aspect des choses, troisième section pour ce matin, versets 5 et 6. La question du prince de ce monde ou des dieux de ce monde, nous allons le voir à partir du verset 3 et verset 4. Tandis que la dernière section, Christ au centre de la prédication. Même si Satan repère Jésus-Christ, le Seigneur, devrait être, doit être toujours au centre de nos activités, au centre de notre mission pastorale ou mission évangélique. Voilà les trois sections que nous avons pu trouver dans ce texte. Frères et sœurs, avant de développer ces trois choses, je vous appelle à... Nous avons jugé opportun de voir d'abord le contexte précédent de ce texte du jour. Cela nous permettra de nous cheminer ensemble vers les sujets de ce matin. Contexte précédent, c'est-à-dire le chapitre 3. McDonald's et son co-auteur, Farstad, divisent le chapitre 3 en deux grandes parties. La première partie va du verset 1 du chapitre 3 au verset 5. De quoi il est question dans cette partie? Il est question de la lettre de recommandation. Paul doit retourner à Corinthe parce qu'il y a des problèmes. Après son départ, il y a des problèmes à Corinthe. Mais on accuse Paul de problèmes parce qu'il y a des faux prophètes, des judaïsants, les gens qui aiment coûte que coûte la loi. Ils se sont introduits à l'église de Corinthe. L'église est divisée. Mais on accuse Paul d'être un homme arrogant et de se recommander lui-même, de se mettre lui-même au devant de la scène. Coûte que coûte, il faut venir avec une lettre de recommandation. Pourquoi? Parce qu'au premier siècle, pendant que Paul écrit cette lettre, pour qu'un frère quitte son assemblée et aille vers une autre assemblée, il devrait être porteur d'une lettre. Pourquoi? C'est une question d'identification, pour qu'on te reconnaisse. Paul dit au verset 3 du chapitre 3, il dit n'a pas besoin de cette lettre de recommandation, car il avait une autre lettre, et il y trouve celle-là la meilleure. Jetez un coup d'œil rapide au verset 3 du chapitre 3. De quoi il est question? Paul dit que c'est vous les Corinthiens, vous êtes ma propre, vous appartenez à Christ, mais vous êtes ma lettre de recommandation. Vous êtes la lettre de recommandation de Christ, mais via mon ministère, moi Paul, ça vous de témoigner. Au lieu que je sois porteur d'une lettre qui vienne de quelque part, quand je viens à Corinthe, je n'ai pas envie de m'amener avec une lettre de recommandation. Vous, ne restez pas dans la passivité. Vous devez défendre l'apôtre. Vous devez défendre celui qui vous a amené l'évangile. Vous devez défendre la foi qui était sortie de l'évangile. Si vous êtes devenu, vous Corinthiens, vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, c'est Christ d'abord et ensuite moi, Paul, par mon ministère. Deuxième section du chapitre 3 va du verset 6 jusqu'à la fin du verset. De quoi il est question ici? Paul fait un contraste entre le ministère dans l'Ancien Testament et le ministère dont Moïse est l'agent sous le soubassement de la loi et le ministère de la Nouvelle Alliance dont Christ a inauguré sous la puissance du Saint-Esprit. Et au fait, quand vous regardez le verset 10 et 11, Paul trouve que Paul trouve que le ministère dans la nouvelle alliance est encore supérieur, loin supérieur au ministère dans l'ancienne alliance. Et Paul a commencé son ministère, il l'a terminé dans le contexte du ministère de la nouvelle alliance, le ministère de l'évangile, voulais-je dire. Frères et sœurs, pourquoi Paul compare ces deux ministères? C'est parce que les faux apôtres qui se sont introduits dans l'église de Corinthe voulaient assez que Paul puisse associer la loi et la grâce obtenue par, que nous avons obtenue par Jésus-Christ. Oh, Paul n'en veut pas. Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur. Il est l'image de Dieu vivant. Je travaille sous l'impulsion de l'Esprit et de Jésus-Christ. Revenons maintenant au texte. Mais avant de revenir au texte, le contexte général de cette épître aux Corinthiens veut que Paul se défend à cause des accusations. Nous avons lu dans sa lettre et on va voir ça. Je rejette les accusations honteuses. Donc gardez cela à l'esprit. Revenons ici au texte, voulais-je dire. Au premier verset de notre section chapitre 4, pour introduire ce chapitre par cette déclaration. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons reçu ce ministère. Ça, c'est extraordinaire, ça. Il a parlé de son ministère au troisième chapitre, verset, à la première section. Il a comparé le ministère de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ici, dès l'introduction, il dit ainsi ce ministère, parce que nous avons reçu ce ministère. Aujourd'hui, il est question de ministère, de notre foi, de notre appel, de notre sacerdoce. C'est vrai que ici Paul parle de son ministère pastoral. Mais j'ai envie de vous associer dans son ministère parce que nous faisons partie du sacerdoce universel. Qu'est-ce que Paul ajoute dans son premier verset? Son ministère est un don de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Votre appel, votre présence ce matin au niveau de notre assemblée, vos activités en tant que chrétien, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Cela revient à dire qu'il n'y a rien de notre propre effort. C'est un don de Dieu, mes amis. Ailleurs, quand Paul aborde cette question de ministère, il parle en d'autres termes, et il dit, la grâce qui m'a été accordée. Au lieu de parler du don, ailleurs il dit, la grâce qui m'a été accordée. Vous pouvez regarder ça dans Romains chapitre 12 et verset 13. Ou bien, plus facile, Romains 15:15. La grâce qui m'a été accordée. Cela, d'après tous les commentateurs de ce merveilleux texte, cela revient à dire que Paul fait référence, en utilisant cette expression, Paul fait référence à sa rencontre avec Jésus quand il allait sur le chemin de Damas afin de persécuter la nouvelle église. Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? En d'autres termes, Paul se reconnaît ici Quelqu'un qui ne méritait pas cette grâce-là parce qu'il était persécuteur, un diffamateur. Il avait d'autres objectifs que les objectifs de l'évangile. Il s'appelait Saul. Oui, la grâce qui m'a été accordée. La grâce qui m'a été accordée, tout simplement parce que, en tant que persécuteur, Paul devrait être puni. Il devrait être condamné. Il n'en est pas question. Il n'en était pas question. Dieu lui a confié sa mission divine. Dieu a fait de lui un prédicateur de l'évangile. Et quand on regarde quand Paul se ressaisit et qu'il y voit cette métamorphose, ce changement qui s'est opéré en lui, le fait qu'il quitte un camp d'un adversaire, un camp d'un brigand, et qu'il devienne le serviteur, la grâce qui m'a été accordée. Paul se voit ici. Où est-ce qu'il a été tiré? Il a été tiré de la boue. Oh notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu souverain, la grâce qui m'a été accordée. À ce stade, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire une chose à retenir. Nous sommes des graciers. J'ai entendu Paul dire ici que nous sommes tous égaux, mais au nom de cette égalité, nous sommes des graciers. Nous sommes tous des graciers. Nous savons, chacun sait, même si nous avons des origines différentes, mais nous sommes tous des graciers. Cela est fondamental. Et quand tu regardes cela, tu ne vois pas les défauts de ton mari, tu ne vois pas les défauts de ton frère, tu ne vois pas les défauts de l'autre, parce que tu t'es dit, nous sommes des graciers. Au sein de l'Assemblée, nous sommes des graciers. Oui, nous sommes des graciers comme Paul l'a été. Nous sommes tous des graciers. Mais autre chose à retenir dans cette expression, la grâce qui m'a été accordée. Rappelez-vous que quand Christ est venu visiter Paul sur le chemin de Damas, il ne l'a pas seulement saisi, mais simultanément, presque au même moment, en le changeant de cœur, il lui a confié un message. Il a dit, Paul, relève-toi, va à Damas, tu trouveras quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. Paul se relevait avec les gens qui étaient partis avec lui, sont arrivés à Damas. Vous savez qui il a trouvé? Je sais que vous savez qui il a trouvé. Un certain Ananias. Et ce qui est particulier ici, c'est que Dieu avait déjà dit à Ananias que tu vas accueillir quelqu'un qui vient dans cette ville de Damas. J'ai fait de lui quelqu'un que je vais utiliser. À travers ces deux choses, la conversion, mais à côté de la conversion, il y a la mise en service. Et pourtant, à côté de la conversion, non seulement que Paul a été converti, mais il a été mis en service. Dieu accorde toujours, quand on est converti, Dieu accorde toujours un don à quelqu'un. Frères et sœurs, le don que Dieu t'a confié, c'est justement pour le service de l'Assemblée, le service de l'Église. Mais il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leur don. Ou soit qu'il y a des gens qui connaissent leur don, mais ils ont peur de les exprimer. Ou soit, s'ils n'ont pas peur d'exprimer leurs dons ou de les mettre en pratique au niveau de l'Assemblée, Ils n'ont pas le temps. Ce matin, j'étais en train de parler à Paul. Il m'a amené dans un pastoral. Et le dernier pastoral, un rassemblement des pasteurs de notre association. Et qu'il y a eu un problème qui s'est posé. Pas comme ça un problème, mais un constat qui a été fait. Il y a une crise de foi. Il y a des serviteurs qui manquent dans nos assemblées. Et la plupart des pasteurs qui étaient là ont dit oui, ça on le constate, les anciens s'en occupent, ils voient, mais ils s'en occupent aussi. Mais le problème, c'est aussi au niveau des gens avec qui on voit qu'ils ont des dons, parce que tu peux appeler quelqu'un. Est-ce que tu peux pas venir à notre activité à l'église ce soir? Ah, je n'aurai pas le temps. Soit je fais ça, soit je fais ça. Chacun a un don. Pensons à nos dons pour mettre au service de l'église. La conversion et le don, les deux marchés des peurs. Deuxième partie du premier verset. Regardez ensemble avec moi. Non seulement que le ministère est un don. Paul dit, ouais, je n'ai pas peur. Premier verset de notre texte de ce matin. Non seulement que le ministère est un don, je n'ai pas peur. Je vous ai dit qu'il faut garder à l'esprit ces accusations de faux prophètes qui se sont introduits à l'église. Ils ne font qu'accuser, accuser, accuser, accuser les serviteurs. Paul dit, oui, quand je regarde la noble mission qui m'a été accordée, je n'ai pas peur. Quand je regarde la grandeur de celui qui m'a appelé, je n'ai pas peur. Je ne me comporte pas comme un lâche. Je n'abandonne pas non plus le don de Dieu. Oui, il n'a pas peur. Au verset 2, Paul dit quelque part qu'il rejette toutes les accusations. Vous comprenez qu'ici, Paul donne une réponse à ses accusateurs. Je rejette les choses honteuses qui se font en secret. Toujours au verset 2, toujours au verset 2. Les choses honteuses qui se font en secret. Un commentateur de ce texte a essayé de lier cette pensée de Paul à Luc 20, à partir du verset 19 jusqu'au verset 6. Et quoi, il est question ici? Il s'agit spécialiste de la loi au temps de Jésus. Au verset 19, qui voulait tendre un piège à Jésus à propos des impôts. C'était des personnes qui disaient des choses mais qui pensait autre chose. Des accusations qui se font, des choses honteuses qui se font en secret. Ici, les spécialistes de la loi murmurent et cherchent à tuer Jésus. Ils disent, on va lui tendre un piège. Regardez les intentions des gens. Regardez les intentions d'une grande partie importante de la couche du peuple de Dieu, des Juifs. Ils voulaient éteindre la lumière du monde. Ils voulaient tuer Christ. Mais en habillant ses idées par un mensonge, ils murmurent avant d'agir. Dans sa mission évangélique, il dit rejette, Paul rejette tout cela. Et ils disent, prenez une pièce de la monnaie.
Est-ce que à qui nous devons payer les impôts? Est-ce que nous, chrétiens, nous devons payer l'impôt? Christ les connaissait. Il connaissait leur cœur. Il connaissait leur ruse.
Et Christ leur dit, regardez l'effigie qui est là, de qui? Rendre à César ce qui est à César. Des accusations honteuses qui se fomentent en secret. Mes amis, vous savez que le ministère auquel on est engagé, le ministère auquel on est appelé, ce ministère a problème, problème, problème. Les pasteurs, les anciens, ce ministère a problème. Il y a toujours des accusations, il y a toujours des critiques. Paul, au moment où il écrit cette lettre, il avait des critiques acerbes sur son ministère, sur sa personne. Toujours au verset 2, Paul dit, malgré les accusations, malgré les problèmes, je ne falsifie pas l'évangile. Toujours ces accusateurs l'accusent d'utiliser l'évangile comme un paravent. Comme un paravent. Paul dit non, je ne falsifie pas, je n'altère pas l'évangile. Bien au contraire, moi, Paul, je proclame la parole de Dieu en toute clarté et je le mets au devant de la scène, devant toute personne et devant toute conscience. Verset 2. On n'altère pas l'évangile. Paul Évry me disait un jour, sur les plans doctrinal, chez nous ici, à l'église de la Rime des Moniteurs, trouver mieux ailleurs, je ne crois pas. Nous n'altérons pas l'évangile. Chez nous ici, tout texte exposé aux consciences et à l'intelligence des personnes. Il y a des frères dans certaines églises qui pensent que les Écritures ou l'évangile ne se suffit pas. La Bible ne se suffit pas en elle-même. Il faut ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose. Il faut un peu de mysticisme, il faut un peu de la psy, il faut un peu de ça. Paul n'altère pas l'évangile parce qu'il sait la valeur de sa mission. Il sait la valeur de celui qu'il a appelé. Ne vous en faites pas. Il y a des gens qui, si vous êtes attachés à la parole de Dieu, vous êtes condamné. Oh oui, mais lui exagère. Quand tu lui dis quelque chose, la Bible dit. Quand tu lui dis quelque chose, la Bible dit. Nous vivons une culture biblique. Nous vivons une culture biblique. On n'altère pas la parole de Dieu. Quelles que soient les dispositions prises par Paul pour affronter ses accusateurs, Paul n'est pas dupe. Il sait que quand il doit rentrer à Corinthe, il va trouver que l'Église est divisée. Il y a une partie des gens de la Corinthe, de l'Église et de l'Assemblée, des Corinthes, qui sont restés passifs vis-à-vis des accusations. Qu'est-ce qu'il dit au verset 3 et 4, deuxième chose de notre section, enfin de notre texte de ce matin? Le Dieu de ce monde est à l'œuvre. Même si nous croyons, même si nous sommes appelés par le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, n'oublions pas que le Dieu de ce monde, le prince de ce monde, est à l'œuvre. Il est encore à l'œuvre, même s'il a été vaincu
à Golgotha, les dieux de ce monde. C'est une réalité. Les dieux de ce monde, Satan est encore à l'œuvre. Vous regarderez ça au verset 3 et verset 4. Oui, Satan cherche à gagner les consciences de Jean. C'est dans ce sens que Paul dit au verset 4, « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour des incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu. » Le voile ici, c'est un mur qui s'est élevé. D'un côté, vous avez la proclamation de l'évangile, vous avez la parole de Dieu, vous avez l'homme et sa conscience et son intelligence. Mais il y a un mur. Et quand la parole est proclamée, ça projette de la lumière. Mais à cause de nos incrédulités, la lumière ne nous atteint pas. La lumière de l'évangile ne nous atteint pas. Cette incrédulité ou ce voile peut être soit notre orgueil, soit notre volonté de nous faire justice coûte que coûte au nom de la liberté que le monde donne. Oui, mais en fin de compte, c'est pas une raison que le fait que Satan puisse gagner nos cœurs, c'est pas une raison. Si nous n'acceptons pas l'évangile, nous sommes exposés à la justice de Dieu. Chacun est responsable de ses actes et de ses opinions. Troisième aspect de choses de ce matin, Seigneur Jésus-Christ au centre de la prédication. Quel que soit le problème, encore une fois, on accuse Paul de vouloir se mettre tout le temps au devant de la scène, tout le temps au devant de la scène. On accuse Paul d'être prééminent. Il n'en est pas question. Paul répond au verset 5 qu'il ne se prêche pas lui-même. C'est Christ qui lui prêche. C'est Jésus-Christ qui lui prêche. La seule personne qui a été livrée pour nos péchés, c'est Christ. Il n'y a pas autre chose. J'entends beaucoup de personnes qui cherchent à des manières pour évangéliser, ainsi de suite. C'est simple, prenez tout simplement la parole de Dieu, prenez l'évangile, prenez le texte de l'évangile. Si vous l'avez bien compris, si ça a été bien inspiré, vous le transmettez à quelqu'un. Et le reste, c'est Dieu qui fera son travail. Mais étant donné qu'on l'accuse, qu'il se prêche lui-même, mais alors qui est-il? Toujours au verset 5, Paul dit, nous sommes vos serviteurs. Nous sommes vos serviteurs. Je me rappelle quand j'étais en train de préparer ce texte, je me rappelle d'un ancien frère qui n'est plus de ce monde et qui disait, il faut que le Christ s'élève et que nous puissions reculer. Je ne l'ai jamais oublié quand je me rappelle de ce texte ou de propos de ses frères, même s'il est dans l'au-delà. Regardez Paul, il met Dieu au devant de la scène. Christ au centre de notre prédication, rien à faire. Pour terminer, bien-aimés dans le Seigneur, croyons que l'appel est un don de Dieu et non le résultat de notre propre effort. Au sein de notre assemblée, considérons-nous comme tous des graciés. Devant les épreuves, comme Paul avait tout le temps des problèmes, ne falsifions pas la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa clarté. Comme Paul, attachons-nous seulement à Christ. Il est notre sauveur. Il est le chemin, la vie et la vérité. Que notre Dieu bénisse cette sémence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.